Vous êtes sur Radio B. Il est l'heure de résonance. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, notre émission nous emmène dans la Loire et plus particulièrement dans le Roannais. En ce mois 2022, nous arrivons au terme d'une résidence de territoire que conduit Résonance Contemporaine et ses ensembles depuis 2019. 3 années d'implication auprès de la population et des habitants de ce territoire, donnant lieu à une multiplicité d'actions et de projets que nous vous invitons à découvrir, chers auditeurs et auditrices, du 3 mai au 6 juin prochain. Résonance, une émission réalisée et mise en onde par Simon Deborne, au microphone Alain Goudard. Au cœur de la démarche de résonance contemporaine, la rencontre des différences. C'est prioritairement travailler avec la fragilité humaine, vivante, incertaine, qui épouse le mouvement, le déplacement, la mobilité. C'est travailler sur les seuils d'attention, la réappropriation de notre capacité d'écouter et de sentir, autrement dit d'agir dans un milieu en s'inscrivant dans un réseau de relations. Porter ainsi une attention aux singularités, rapprocher des histoires culturelles, favoriser le développement d'une relation plurielle, démultiplier les rapports avec les autres, avec les territoires, avec leurs habitants, c'est développer une action rhizomatique, c'est donner naissance à des alliances inédites, des rencontres fondatrices. Ces résidences de territoire sont pour nous des mers de rencontres et d'implications, de recherche et d'inventivité. Ce sont des moments laboratoires où nous cherchons à ce que chacun, chacune, quel qu'elle soit, quel qu'il soit, puisse découvrir, vivre, partager l'aventure de la création musicale, car celle-ci est un bien commun et doit être accessible à tous.
I see one break free from the tree. I watch it dancing in the air. I feel the wind drop. I watch the leaf fall. I hear it touch the ground gently. I imagine it withering soon and then rotting. I wonder if the leaf is content. Were those few seconds of graceful flight enough to balance its short future? I feel the wind again. I see the trees sway. I forget the leaf. I feel thank you.
Résonance sur Radio B, poésie de la matière, une aventure humaine et musicale dans le Roannais. Et là, nous venons d'entendre une pièce de Will Menter. On verra que cet artiste est aussi invité dans le cadre de cette résidence. Et nous avons entendu The Leaf, la feuille, une pièce écrite, imaginée par Will Menter pour une voix et une sculpture sonore de Woon Wind. Alors, effectivement, j'évoquais l'idée de résidence, et chaque résidence est finalement une prise de risque, mais une prise de risque partagée avec des acteurs de terrain, des femmes, des hommes, des structures, des institutions culturelles, des associations, des communes, sans lesquelles nous ne pourrions agir en profondeur, aller au plus proche, avec simplicité et exigence, sans lesquelles nous ne pourrions ancrer des pratiques, susciter des envies de s'engager, d'aller plus loin encore. Ce tissage, ces rencontres plurielles, nous ont nourris, portés, ici dans ce territoire roannais. Depuis 2019, générant de multiples actions et projets, ici le Conservatoire Roanne Agglomération, musique, danse, théâtre, sa directrice Pascal Amiot, l'équipe de professeurs, les élèves, cultivent un bouillonnement permanent qui alimente les initiatives, les croisements, les rencontres, provoque les transversalités, le croisement des populations et a permis de générer, dans le cadre de cette résidence, des rencontres humaines, passionnante, mêlant et associant artistes, publics spécifiques, élèves et professeurs du conservatoire autour des musiques d'aujourd'hui. Ces temps de résidence au sein des territoires sont aussi des moments de croisement artistique, d'invitation d'artistes avec lesquels nous avons choisi d'accompagner, de travailler dans la durée pour découvrir plus en profondeur leur démarche artistique. Et c'est ainsi que la présence artistique est de Will Menter, compositeur, performeur, la présence de ses œuvres, ses installations sonores dans de nombreux sites du territoire roannais s'inscrit dans cette dynamique. Et nous sommes particulièrement heureux que son travail artistique puisse ainsi trouver de nombreux écrins dans le Roannais pour accueillir son travail et ses sculptures sonores. Alors je vous propose d'aller à la rencontre de Will Menter à travers la diffusion d'extraits d'un entretien diffusé le 18 avril 2017 dans le cadre de notre émission. Will Menter invite tout un chacun à poser un autre regard sur l'instrument, à développer une nouvelle écoute, une curiosité qui le conduit à se demander devant chaque instrument, chaque objet sonore, comment cela peut-il sonner ? Comment la musique va naître, s'imaginer, exister et prendre forme. Autant de questions qui nous entraînent finalement bien au-delà du champ de l'art.
Pour moi, c'était évident depuis longtemps que le lien entre l'art et la nature nous ramène à l'essentiel à un certain niveau. Donc, par exemple, moi, j'ai toujours habité à la campagne depuis enfance. Donc, j'ai pas une expérience typique moderne, en fait. Parce que, évidemment, la plupart du monde maintenant, c'est en
c'est
ville.
Ça. On est dans l'urbanisme, l'urbain au maximum. Et
oui,
l'expérience campagnarde est plus, moins habituelle, on va dire, pour certains.
Oui, c'est ça. Donc, mais ce que j'ai toujours bien aimé, c'était juste, apprécier la nature à peu près comme c'était l'art aussi. C'est l'idée que il y a la musique partout. En fait, il y a l'art visuel partout aussi. Et puis, pour moi, il n'y a pas vraiment la frontière entre les créations humaines et l'environnement. Donc, et pour moi aussi, mais oui, c'est bien lié avec l'état de l'art contemporain, contemporain pour moi aussi. Donc, pour moi, c'est pas essentiel qu'il y a un lien avec la nature dans les œuvres. Dans mes œuvres, il y en a souvent. Mais quand même, le fil le plus intéressant pour moi dans l'art contemporain et la musique contemporaine, c'est l'idée que c'est pas une œuvre séparée de l'environnement.
C'est ça.
C'est une œuvre liée avec le lieu où elle existe. Donc, et puis, Et en ce cas-là, c'est pas seulement lié avec le lieu où il existe, mais c'est lié avec les gens qui le découvrent dans le lieu. Donc il y a une partie de l'œuvre qui est créée par le public, c'est dans ça. Leur écoute et dans leur perception de l'œuvre. Donc sans la présence d'autres gens, l'œuvre est incomplète. En fait. Voilà.
Alors, j'aimais bien aussi, dans l'un des ouvrages qui rassemble aussi un peu vos différentes réalisations, pour reparler des éléments naturels justement sur lesquels après vous vous êtes intéressé, je pense le bois, la pierre, la poterie, l'eau, ouais. etc. Vous écrivez justement au début des années 80 et là vous êtes encore en Angleterre, tout près de Bristol.
Oui, oui. Oui.
Alors pardon mon anglais, près de Watercatch.
Watercatch. Oui, voilà. C'est bien. Ouais.
Et là. Comme vous le disiez là maintenant, vous êtes en pleine forêt, une vie dans la nature, ouais. Et donc du coup il y a des nécessités toutes simples du quotidien qui font que régulièrement on est obligé de s'approvisionner justement dans la forêt,
oui.
en bois,
oui,
notamment.
Ça. Oui, oui, le bois. Oui.
Et puis à un moment donné, le fait d'être dans cette relation à la fois quotidienne, mais de cette relation avec ce bois qui est là et qui va avoir aussi une utilisation particulière dans votre quotidien. Il y a un intérêt qui se forge justement pour cette matière et ça devient un fil conducteur.
Oui, absolument. C'est les circonstances particulières parce que en fait, je ne dis pas que j'ai juste découvert le son et la musique comme ça.
C'est ça.
Parce qu'avant ça, j'avais bien une histoire dans le jazz contemporain et
voilà.
la musique
improvisée. Vous étiez déjà dans un musicien qui s'aventurait dans multiples...
Oui, voilà. voilà. Mais c'est vrai que cette Watercatch Farm où j'ai habité pour 15 ans à peu près, dans un village où... Non, c'était pas dans un village, c'était vraiment dans la campagne, mais pas loin de Bristol, en fait. Et là, oui, on chauffait à bois. Et puis j'ai coupé le bois.
Ouais.
Et puis j'ai remarqué quand je coupe le bois, c'était avant, j'avais pas une tronçonneuse à cette époque-là. Je,
donc j'ai coupé la
scie à la main.
La scie à la main.
Ouais. Et puis j'ai remarqué chaque fois que j'ai coupé un bout de bois, quand il tombait sur le sol, il fait un son musical. En
bien
fait.
Sûr, bien
parce
sûr.
Que j'étais sur un sol dur, en fait c'était sur le béton, mais. Si on fait sur l'herbe, on l'entend pas. Mais donc j'ai entendu une note claire de chaque bout de bois que j'ai coupé, et je me suis dit oui, ok, je fais la musique pendant que je coupe
pendant que
le
je
bois.
Scie.
Donc je prends une pause de scier, et puis ça n'avance pas vite le travail de scier, mais ça donne un plaisir personnel pour
c'est certain
que j'ajoute à ce travail physique. voilà.
Un peu quand on vous entend et justement dans cette écoute très attentive finalement, c'est-à-dire du coup, bien sûr, on évoquait l'attitude de musicien et en même temps le fait que le musicien peut aussi, dans son quotidien finalement, à force de s'approcher du son, d'être en relation avec celui-ci, il développe aussi une écoute maximale et qui fait qu'effectivement, quand je me mets à scier, j'entends quelque chose tomber et ça prend un autre sens. Oui. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que quelque part, sans parler d'influence, mais peut-être d'état d'esprit, l'état d'esprit d'un John Cage, par exemple, c'est quelque chose qui rentrerait aussi en lien avec votre démarche. Donc, pour préciser pour nos auditeurs, dans les années 50-70, John Cage a repositionné sa posture de musicien, de compositeur sur notre rapport au son, aux objets, à la nature. Mmh. Voilà, cette relation aussi qu'on pouvait avoir à eux, ça fait partie aussi un peu des éléments pour vous.
Oui, absolument. C'est intéressant que vous évoquiez John Cage parce que, en fait, disons que j'ai apprécié John Cage petit à petit et maintenant je vois qu'il est très important dans mon histoire personnelle, mais quand même à un certain niveau, je l'ai résisté aussi.
C'est ça.
Parce que je suis arrivé du monde de free jazz et musique improvisée, qui est une autre histoire.
Tout à fait.
Et puis dans cette musique, il n'y a pas l'aléatoire en fait, bien que ce soit improvisé, c'est très très ciblé en
très
fait,
ciblé, finalement.
Et très expressif au niveau personnel en fait. Et John Cage par contre, Il a essayé d'éviter l'expression personnelle. C'est ça qu'il a détesté, en fait.
Absolument, c'est ça qu'il a détesté, effectivement.
Oui, c'est ça.
Pour recentrer l'individu sur autre chose que simplement sur, on va dire, parce que c'est pas forcément ça, mais quelquefois du verbiage un peu trop développé, et essayer de revenir à l'essentiel de ce que pouvait être ce rapport au son et la place simple, finalement, qu'il pouvait y avoir.
Oui, oui. Et c'est, John Cage, il a bien étudié la philosophie zen, en fait.
Aussi.
Et puis, il a cherché les moyens d'éviter l'ego. Mais bien sûr, lui, il avait un ego immense. Donc c'est contradictoire. Donc c'était quelqu'un qui était très très ambitieux, très engagé à
très
sa
engagé.
Musique personnelle. Ouais. Il avait son message personnel qu'il voulait diffuser.
En fait.
Donc on pourrait pas dire que c'est quelqu'un sans ego, mais quand même il a. C'était cette tension, à mon
cette
avis.
Cette tension-là qui était là,
qui a créé son chemin. Et maintenant, maintenant, quand je regarde mon chemin avec un peu de recul, je vois que c'est aussi comme ça. C'est un dialogue entre les besoins un peu égoïstes, en fait, d'expression et l'idée de partager le plaisir des sons sans égo, en fait, les sons simples. Mais il y avait aussi, si je pense à mon histoire personnelle, il y avait, je me souviens un disque que j'ai écouté quand j'avais 22 ans, peut-être, qui était Marion Brown, saxophoniste américain, qui était du monde de free jazz, mais c'était quelqu'un qui était aussi très proche de John Cage, je pense. Il y avait un disque qui s'appelait L'après-midi d'un faune de Georgie, en fait.
D'accord.
Donc le titre, c'est basé sur le titre de Debussy, L'après-midi d'un faune.
Oui, tout à fait.
Mais lui, il a fait une faune, mais c'est en Georgie.
C'est en Georgie, voilà.
Aux États-Unis, en fait.
Voilà, c'est ça.
Des États-Unis. Et c'était un disque de assez très improvisé, très libre, mais sans cette intensité
qu'on retrouve dans le free jazz. Et là, ça vous a ouvert aussi, de se dire, c'est une manière aussi d'aborder les choses.
Oui, c'est ça. Ça réunit deux univers. Et puis, ça restait dans ma conscience très longtemps, ça. Et puis, voilà.
Et j'aime bien, d'ailleurs, ce que vous dites à un moment donné. Finalement aussi dans votre démarche et dans ce qu'on vient un petit peu de dire, c'est une relation entre le créateur et l'observateur qui s'établit par l'intermédiaire de l'objet.
Absolument.
Ça, je trouve que c'est extrêmement important. Alors,
c'est le déclencheur pour la relation.
Ouais, c'est ça. Et absolument. Là, on voit que c'est moins le désir humain pour le désir humain, mais c'est comment l'écoute aussi développée, la rencontre avec un son. On évoquait tout à l'heure de scier l'arbre et puis il se passe quelque chose. Et là, du coup, il y a quelque chose qui se déclenche, l'observation. Et en même temps, à partir de cette observation, va se déclencher une imagination, va se déclencher une envie peut-être à partir de cette imagination d'aller plus loin, de rencontrer cette chose, et jusqu'où elle va m'emmener dans l'acte de création, finalement.
Oui, c'est ça. Et puis, moi, j'aime bien l'idée que, en fait, à un certain niveau, les artistes sont timides aussi.
C'est vrai.
Évidemment, ils ont un extérieur qui communique avec, qui doit communiquer avec le monde. Mais quand même, il y a quelque chose. On est timide parce qu'on a envie de partager son intérieur, en fait. Et on n'est pas sûr que son intérieur sera apprécié par les autres. Mais on espère qu'il y a un lien commun entre notre intérieur et l'intérieur des autres, en fait. Donc on expose l'intérieur.
Tout à fait.
Et c'est ça qui nous fait timide aussi, parce que c'est une exposition.
Alors nous évoquions, peut-être on peut parler aussi un petit peu de ce qu'on vient d'entendre justement au Wilmanter. Ouais. Et ça me fait penser aussi à une chose que vous disiez aussi, que vous avez écrite également, dans l'idée que laisser les matériaux dans un état proche de leur état de base,
oui,
et vous les persuader en douceur de produire des sons complexes. Vous cherchez finalement à ce que ceux-ci, en quelque sorte, parlent d'eux-mêmes.
Oui.
Et je trouve que, oui, dans ce qu'on vient d'entendre, c'est un petit peu, sans parler d'illustration, le terme n'irait peut-être pas bien,
oui,
mais c'est ce qu'on a vécu finalement en écoutant.
Oui, c'est ça, parce que cette pièce « Short Sharp Shower », qui en français, qu'est-ce qu'on a dit, vive.
Alors, brève, vive, averse.
C'est ça. donc, c'était fait avec une de mes sculptures, qui s'appelle Rain Songs, la sculpture. Et cette sculpture, c'est 9 plaques d'ardoise, montées sur une structure sur un bassin. Mm-hmm. Avec un tube de résonance en terre cuite en dessous chaque plaque d'ardoise. Et puis, il y a un système de goutte à goutte qui dépose les gouttes d'eau sur les ardoises. Oui. Et quand j'installe comme sculpture, c'est juste ça. En fait, il y a des 9 gouttes
qui
chaque goutte fait bim, boum, boum, boum. Et l'autre fait dun, 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 dun. Donc chaque, il y a 9 vitesses différentes.
C'est ça, qui se superposent les unes aux autres.
Oui, c'est ça. Donc les mélodies qui arrivent sont aléatoires, en
complètement
fait, parce que chaque vitesse.
On ne peut pas prévoir totalement ce qu'elle va être et comment les gouttes vont réagir.
Il y a une gamme de possibilités qui
bien sûr
qui change. Ouais. Mais pour ce morceau qui était un morceau enregistré, en fait.
Ouais.
En ce cas, j'ai enregistré chaque goutte séparément, en fait.
D'accord.
J'ai lancé une plaque d'ardoise à la fois avec une goutte, et puis avec sa propre vitesse. Et après, donc j'ai fait 9 enregistrements séparés. Et puis après, je l'ai retravaillé en studio, en fait, pour créer la
morceau, complémentarité et créer le morceau en lui-même.
Donc c'est une évolution de la sculpture. C'est pas la sculpture pure, en fait.
C'est ça.
Et donc c'est ça, ça
devient. Il y a un travail compositionnel qui vient.
Oui.
En plus, en tout cas pour l'enregistrement.
Oui, oui. Et j'ai même transformé un petit peu les sons pour qu'il y ait plus de notes longue durée, en
c'est
fait.
Ça.
Et un peu de, j'ai ajouté de.
Un peu de reverb.
De reverb, oui. Mmh. Donc, mais avec finesse, j'espère, en fait. Donc, j'ai
complètement.
Oui.
Mais c'est ce qu'on sent aussi, et ça va permettre de continuer notre entretien autour de ces éléments-là. On sent aussi beaucoup de douceur. On sent beaucoup de finesse dans votre manière d'être et dans votre manière de faire.
Oui.
Et je trouve que, effectivement, que cet état d'esprit qui vous anime, et je dirais même également l'humanité et le rapport au monde, finalement.
Oui.
Je souhaiterais effectivement qu'on approfondisse un petit peu cela. Et pour ce faire, je voudrais citer certains de vos propos, et notamment ceci. Alors, vous dites, par exemple, « Je préfère penser aux sculptures comme un intermédiaire grâce auquel nous pouvons partager nos idées » sur l'humanité et sur notre manière d'être au monde. Elle donne une idée de la manière dont une autre personne pense et ressent les choses. Ceci est mon monde. Je vois le monde comme ça. J'entends le monde comme ça. Entendre ce son, voir cette forme, m'aide à être plus conscient de ça. Produire du son, créer cette forme, m'aide à imaginer.
Oui.
Et là, on sent vraiment quelque chose de très fort, tant sur le point de vue de la relation à l'autre, et puis de cette inscription à l'autre dans cette humanité, dans ce monde tel qu'il est aujourd'hui.
Oui.
Et ça, on sent que c'est quelque chose de très fort aussi dans votre démarche.
Je pense, c'est ça, j'essaie de définir un petit peu mon processus intérieur, en fait. Et puis, je ne sais pas, en fait, c'est aussi l'énigme de la condition humaine que nous sommes tous pareils, mais nous sommes aussi tous différents.
Exactement.
En fait. Et puis on explore c'est quoi exactement le, la façon unique de chaque personne, mais en trouvant cette façon unique, on arrive à bien comprendre qu'on est tous pareils aussi.
Aussi.
Ouais. Et puis, je ne sais pas, c'est un espoir de partage, en fait. Et puis, je ne sais pas, oui, comme j'ai dit, j'ai pas une expérience typique, par exemple, parce que j'ai habité beaucoup à la campagne. C'est pas typique maintenant. Mais quand même, je pense que c'est bien implanté dans notre conscience partagée, en fait, cette relation avec la nature. Et puis, je pense que c'est quelque chose que peut-être nous manque dans la vie urbaine. Moi, je ne sais pas, parce que c'est moi qui dit ça, mais il y a peut-être plein de gens qui sont très contents
de ça.
Oui, voilà.
Ça me fait rebondir justement à l'écrivain et philosophe aussi Édouard Glissant, pour rebondir à un moment donné de ce que vous venez de nous dire. Oui, quand il évoque la relation, justement, la pensée de la relation, et écrit-il, elle distingue entre des différents pour mieux les accorder.
Voilà, c'est ça que j'essaie de dire. Il le dit mieux que moi.
Ah, c'est chacun avec ses mots, là aussi.
Oui, oui, bien sûr.
Et puis aussi, là, en avançant un petit peu dans sa réflexion, dans ce que ça met en mouvement, effectivement, le fait de côtoyer l'autre, le fait aussi de ce que je trouve aussi important dans la démarche pour vous, c'est que du coup ça déclenche le processus intérieur aussi de qu'est-ce que je suis, de qu'est-ce que je peux être dans ce monde, quelle relation je peux aussi avoir avec les autres, et du coup qu'est-ce que ça met en branle finalement en moi-même. Et il écrivait ceci: je change pour échanger avec l'autre. Oui. Sans me perdre pourtant, ni me dénaturer.
Oui.
Et là, je crois qu'aussi, il y a quelque chose d'important, là aussi, là-dedans. Ma relation à l'autre fait pas que je me mute complètement et je deviens tout autre chose, mais, voilà, c'est cet équilibre qu'on cherche.
Oui, parce que si on fait semblant, par exemple, qu'on est exactement pareil que l'autre, c'est pas très intéressant.
C'est pas très intéressant, effectivement.
C'est un peu banal, en fait. Donc, on est obligé un peu de chercher l'unique dans son personnage, et puis jouer avec ça et partager ça, mais quand même
essayer de trouver ce que l'on peut être de manière authentique, être vraiment ce que nous sommes, essayer de l'approcher en faisant un peu fi des choses. On sait que c'est compliqué à l'intérieur d'essayer de définir qui suis-je véritablement. Je peux me mentir à moi-même en fonction de ce que je fais.
Oui,
je peux être voilà, essayer d'aller au plus juste effectivement de ce que je peux être. Et est-ce que ce peut-être peut être permanent, en tout cas autant faire ce peu pour trouver une juste relation avec l'autre.
Oui, c'est ça.
Et là, c'est un pari passionnant, finalement.
Oui, absolument. Il y a ce truc. Vous connaissez cette pièce de Steve Reich Proverbe.
Oui.
Il utilise un texte de Heidegger, je pense.
Oui, je crois. Heidegger, oui.
Oui. How small a thought it takes to fill a whole life. Comme une petite pensée peut remplir toute la vie. Et je pense que c'est ça, en fait. Il y a, la vie est courte, et puis on fait ce qu'on fait, on explore le plus profond possible, mais finalement c'est une goutte d'eau dans la culture, c'est dans l'univers de l'existence humaine et de l'univers tout.
Et là, on vient d'entendre Bourrasque.
Bourrasque, oui.
Voilà. Qui, je trouve, finalement, résonne bien par rapport à ce que nous évoquions précédemment. Hein,
oui.
Cette recherche de l'intérieur, cette approche de ce que nous sommes.
Oui.
Elle s'est fabriquée un petit peu comment, cette pièce Bourrasque?
Oui, c'est vrai que c'est bien mon intérieur.
On sent ça, hein.
Et physiquement, il y a deux instruments présent, c'est pas les sculptures en ce cas.
Oui.
Ah oui, une c'est une sculpture. Mais l'instrument que vous écoutez d'abord, c'est ce que j'appelle ersatzophone.
Mm-hmm.
Donc c'est un tube en plastique avec le bec de saxophone.
Ouais.
En fait. Mm-hmm. Donc disons que c'est un saxophone bricolé.
C'est ça.
Plus proche de clarinette finalement.
Oui,
parce
qu'on entend
un cylindre en fait plutôt qu'une cône.
On entend vraiment comme la couleur du chalumeau de la clarinette.
Oui, absolument.
Ce côté chaleureux et qui donne vraiment ce timbre.
Oui, c'est ça. Donc c'est un tube plastique en fait avec 7 trous dedans. Je pense qu'on joue le même principe que clarinette. Et puis, mais je l'ai enregistré 6 ou 7 fois. Et chaque fois que j'ai enregistré, j'ai joué une seule note, en fait.
Mmh.
J'ai sélectionné une note.
Ouais.
C'est pas loin des gouttes d'eau qu'on a écouté l'autre piste. Donc, j'ai répété une note seulement. Et puis, j'ai fait un montage en studio de ça. Et puis, il y avait une 8e piste quand j'ai improvisé toutes les notes à peu près.
Mmh.
Mais chaque fois, j'ai pas écouté les autres pistes, en fait. C'était juste jouer comme ça, évidemment avec une idée de la totalité. Mais
Bien sûr. En
détail, j'ai pas écouté. Donc, il reste un élément très aléatoire dans la relation entre les
notes. Donc, la recherche d'une disponibilité pour justement accueillir ce qui peut s'y passer, accueillir ce que peut être le son, et une volonté, même si effectivement il y a une conscience peut-être d'un global qui va se construire, qui va s'imaginer, mais en tout cas dans l'instant premier, d'être le plus disponible possible à cette relation au son.
Oui. Et bien que c'est très différent d'un travail de groupe, par exemple.
Complètement.
Parce que c'est comme 6 ou 7 musiciens.
Ouais.
Mais quand même, j'ai confiance de moi-même. Donc, il n'y a aucune question que...
C'est ça.
Il n'y a pas une expression d'autre auquel je dois réagir, par
c'est
exemple.
Ça. C'est ça.
Il y a juste mon intérieur
c'est
qui
ça.
Sort.
Donc c'est vraiment cette relation-là qui transpire au maximum et qui se construit.
Oui. Et c'est comme ça aussi quand souvent dans mes concerts solo, j'utilise quelques-uns de mes grosses sculptures.
Mm.
Comme je vais faire le concert ici dans le H2M.
Mm.
Et là, c'est un peu ambigu si c'est moi ou si c'est moi avec.
C'est ça.
Un autre être, en fait. Mm. C'est pas une autre personne, mais c'est un autre être.
C'est un autre être quand même.
Oui, oui. Et ça. Mais cet autre être, c'était créé par moi, donc c'est un peu entre les deux, en fait.
C'est
pas un solo et c'est pas un duo, mais c'est pas un groupe, mais donc c'est une autre relation avec la matière, en fait, et les autres personnes aussi. Donc ça, oui, je travaille beaucoup cette idée de relation avec la matière et la relation humaine entre les. Parfois avec d'autres musiciens aussi, mais...
Résonance sur Radio B, la poésie de la matière, une aventure humaine et artistique dans le Roannais. Et comme je l'indiquais un peu dans le début de cette émission, cette résidence de territoire qui arrive à son terme va proposer un certain nombre d'éléments regroupés sur un titre générique, la poésie de la matière. Et donc c'est donc une multiplicité de rendez-vous qui vous sont proposés du 2 mai au 6 juin prochain. Par exemple, le 3 mai, au théâtre de Roanne, nous aurons la création du Jardin des Murmures, concert création de Will Minter, commande de résonance contemporaine avec les percussions de Tréfort, Laura Tereda, Audrey Pévrier, chanteuse des 6 voix solistes, Pascal Amiot, saxophone, Will Minter, saxophone, à 20h au théâtre de Roanne. Le 4 mai, un autre concert, mais cette fois-ci à la médiathèque de Mably,
tout à côté de Rouen, avec un concert intitulé « Je vais te mettre l'eau à l'oreille » à 18h30 pour tout public. Et là, on retrouvera les percussions de Tréfort accompagnées de la chanteuse Sophie Poulin des Six Voix Solistes et bien sûr, les sculptures sonores de Will Menter. Le 5 juin, on évoquait la relation aux différences. Nous aurons une conférence intitulée « Création et singularité » à 19h au Théâtre de Rouen. Le 14 mai, c'est la nuit des musées, et justement, au musée Joseph Deschelette à Rouen, on pourra, à partir de 18h, et ceci jusqu'à 22h exceptionnellement, découvrir, dans le cadre de la nuit européenne des musées, les œuvres de Will Menter, exposées dans le jardin Deschelette, qui juxte donc le musée. On pourra aussi également entendre, un petit peu plus tard, à partir de 20h, chez Anne Verdier, céramiste, alors là j'indique l'adresse, 330 impasse d'Evernay à Saint-Victor-sur-Rhin, toujours dans la Loire, un concert intitulé Steaming, un concert solo de Will Menter avec ses fameuses flûtes à vapeur, donc à partir de 20h, et ce concert est en partenariat avec l'association des rencontres de l'atelier. Après on continue, on va dans une autre commune, Péreux, là aussi dans la périphérie rouennaise, dans ce territoire du Rouennais, avec le mardi 17 mai, et Walk in the Wood, un concert à 10h30 à la mairie, salle des vignes, s'il faisait mauvais, un concert performance où là on va retrouver en premier lieu les écoles de Péreux, accompagnées de la musicienne Armelle Lopin, de Christophe Lopin, saxophone, Pascal Amiot, saxophone, des percussions de Tréfort, et on retrouvera aussi la chanteuse Sophie Poulin, des Six Voix Solistes de Résonance Contemporaine. Et enfin, vous pourrez bien sûr pouvoir aller très facilement découvrir toute cette diversité à la fois des réalisations, du travail effectué pendant cette résidence et en même temps de découvrir l'univers dans ces multiples lieux, ces multiples écrins des sculptures sonores et musicales de Will Menter. Will Menter que nous retrouvons à nouveau dans la continuité de cet entretien diffusé le 18 avril 2017 dans Résonance.
C'est intéressant, oui, on parle des éléments comme ça, parce que finalement, oui, on nous dit qu'il y a les quatre éléments traditionnels, l'air, le feu, l'eau, etc. Et puis, mais quand même, dans d'autres cultures, il y a bois, et le bois est presque considéré comme un élément. Et dans mon expérience personnel, je peux bien dire que le bois, c'est un élément pour moi. Donc, pour cette sculpture, j'ai réuni les deux éléments, le bois et l'air, en fait. Et c'est juste pour décrire un petit peu la structure physique de la sculpture. C'est un petit peu comme un pergola, en fait. Il y a quatre poteaux en chêne implantés dans la terre du parc. D'une hauteur de 3,50 m. Et puis, suspendu de cette structure de pergola, il y a 180 petits morceaux de bois suspendus sur les ficelles, en fait. Et c'est à ce moment-là que l'air intervient, parce que c'est le vent qui les fait s'entrechoquer, qui les met en mouvement. Et le son, ça arrive avec le mouvement d'air qui touche ce que j'ai dit, j'appelle les feuilles de bois.
C'est ça, les feuilles de bois. Pour ça, le murmure des feuilles. Le bois comme des feuilles. Et comme on entend l'air, justement, dans les arbres, là, c'est l'air qui vient caresser, mettre en mouvement.
Alors, c'est ça. Donc, c'est un principe connu, en fait.
C'est ça. Et ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est que, alors bien sûr, il y avait une thématique par rapport à ça, on y viendra aussi dans quelques instants, mais ça a permis à plein de personnes de participer, et donc ces petites lamelles de bois, feuilles de bois, elles ont toutes été imaginées à partir de l'humain.
Oui,
des constituants humains, des membres de certaines personnes.
C'est ça.
Parce que c'est fort aussi comme idée.
Oui, c'était important pour moi, si je travaille avec un groupe ou trois groupes en ce cas, qu'il faut qu'il y ait une contribution réelle à la création de l'objet. Et bien que ce soit c'est mon idée, la conception, c'est moi qui l'a fait.
Bien sûr.
Et j'ai réfléchi sur comment le groupe peut contribuer. Et j'ai pensé à... Excuse-moi, je prends un petit...
Oui, pas de souci. Donc du coup, à essayer de faire que la construction de chacune de ces petites lamelles, elle soit réalisée, soit à partir de l'avant-bras, des mains...
On a mesuré
l'individu,
oui,
quoi.
Chaque personne, avec un partenaire...
C'est ça.
A mesuré entre le cou et la main... Entre le coude et la main, excuse-moi.
Voilà.
On n'a pas utilisé le cou, en fait.
Ça aurait été possible.
Entre le genou et le sol.
Voilà.
La largeur ouverte de la main.
Ouais.
Et la largeur fermée.
Fermée de la main.
De la main. Qu'on a utilisé pour la largeur des bouts de bois. Et puis, même la grandeur de chaque personne. Parce que moi, j'ai beaucoup d'expérience de travailler avec les bouts de bois. Et la grandeur de chaque personne, c'est trop long pour un bout de bois.
C'est
donc
vrai.
Donc on l'a divisé en trois.
Divisé en trois.
Mais quand même, on a gardé l'idée qu'il y a
c'est
des
ça.
Grandeurs différentes de chaque personne. Et puis, donc il y a une petite signature de chaque personne.
C'est ça.
Avec ses mensurations, en fait, des trucs. Et puis, et c'est aussi un indice global qu'il y a une relation forte entre les dimensions de mes sculptures et le corps humain,
c'est
en
ça,
fait,
ouais.
En général, en fait. Donc, et ça s'est très bien passé avec les groupes. Ils étaient contents de mesurer les corps. Ils ont coupé tous les bouts de bois. Ils ont percé, ils ont attaché les ficelles. Et heureusement, parce que il y a 180 à faire. Donc, si je fais tout moi-même, ça fait, énormément du temps, mais c'était très agréable de travailler avec les trois groupes qui sont engagés profondément.
Oui,
dans
complètement.
Processus.
Et donc c'est l'ensemble de ces personnes, l'ensemble de ces mensurations des uns et des autres qui ont permis d'élaborer les 180 feuilles. Et là aussi c'est fort au niveau de l'humain, dans ce qu'on évoquait tout à l'heure, le rapport d'humanité, le rapport à l'autre, et dans des choses simples justement, où c'est vraiment une partie de chacun qui se trouve effectivement intégrée dans cette partie collective.
C'est ça, oui. Et finalement, après l'œuvre existe, il n'y a pas une participation directe du public parce que les bouts de bois sont en haut.
C'est ça.
Et c'est voulu en ce cas que c'est le vent qui le fait bouger. Mais quand même, il y a une relation entre chaque corps. On écoute avec le vent et on regarde avec les mouvements des bouts de bois. Il y a la relation, normalement le public se met à l'intérieur. De la sculpture avec les bouts de bois en dessous de la tête, donc bien qu'ils font pas un geste conscient, c'est pas comme jouer un instrument
tout
mais,
à fait,
mais quand même ils s'impliquent dans l'action de l'instrument, en fait.
Et c'est ça qui est aussi intéressant, je trouve, dans la démarche, finalement, de l'œuvre Le murmure des feuilles, c'est que du coup, elle convie à une expérience de l'écoute, à revisiter qu'est-ce que peut être l'écoute pour chacun d'entre nous et chacun des visiteurs futurs.
Oui.
Qu'est-ce que c'est qu'écouter ? Il faut que je sois disponible pour écouter. Donc là, on retrouve des éléments dont on disait tout à l'heure, se chercher de l'intérieur, ça oblige à du lâcher prise, ça oblige à prendre conscience un peu de mon environnement, du monde dans lequel je suis.
Oui, absolument.
Et c'est une invitation à tout cela. Finalement, elle nous emmène très loin, cette structure dans ce rapport à soi, mais aussi dans ce rapport au monde et à ce qui nous environne.
C'est ça. Donc, ça déclenche quelque chose, j'espère. Et puis, ça pourrait déclencher une espèce de méditation dans certains gens. C'est pas imposé comme
tout à fait
qu'on fait ça, mais ça peut. Et puis autre moment, c'est s'il y a un vent fort, par exemple, ça fait un bruit énorme qui est aussi intéressant et excite. Ça pourrait exciter certains gens aussi.
Oui.
Et puis il y a quelques-uns qui préfèrent ça.
Il
y a quelques-uns qui préfèrent le façon un peu contemplative, méditative.
Donc du coup, c'est essayer d'amener finalement écouter et accueillir les sons comme ils viennent,
hein,
et leur prêter le sens qui peut être le leur, finalement.
Oui, c'est
ça. Il y a aussi ça, c'est-à-dire, du coup, il y a les événements que vous décrivez, mais du coup, comment je peux accueillir ces événements-là? Comment je peux ne pas les surinterpréter, mais tout simplement essayer de peut-être les vivre et de ressentir peut-être ce qu'ils me provoqueront?
Oui, absolument. Oui, oui. Mmh. C'est ça, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui se passe dans le...
C'est ça.
À l'intérieur d'un autre. C'est ça qu'on a, on a commencé à parler de ça au début de cette émission, mais on essaie d'imaginer, en fait. Ouais, ça fait partie de la condition humaine qu'on essaie d'imaginer l'intérieur des autres. Et il y a plein d'indices, mais finalement, on ne sait jamais vraiment.
Résonance sur Radio B, poésie de la matière, une aventure humaine et musicale dans le Roannais. Alors on vient d'entendre Will Menter nous évoquer justement le murmure des feuilles. Alors chers auditeurs et auditrices, vous pourrez retrouver cette œuvre, le murmure des feuilles, dans le cœur du grand domaine, dans le domaine des grands Mursins à Arcon, toujours dans le Roannais. Et ces œuvres seront présentes, elle est là, elle va être de manière assez permanente pour celle-ci, mais vous pourrez aussi découvrir d'autres œuvres. Et notamment en venant assister le 6 juin à partir de 11h à un moment performance intitulé Métamorphose, performance artistique, concert, atelier de sensibilisation à l'environnement. Bref, un rendez-vous passionnant à suivre et à découvrir, où vous pourrez retrouver aussi bien les élèves du conservatoire de Roanne et de l'école de Saint-André d'Apchon. Vous pouvez aussi redécouvrir les œuvres de Will Menter. On entendra aussi l'ensemble Caudal, comme la compagnie de danse La Vouire aussi également. Et puis, vous pourrez retrouver les percussions de Tréfort, Laura Tereda, chanteuse des six voix solistes, tout cet ensemble d'artistes s'associant, se mélangeant, se répondant pour vous proposer une déambulation artistique des plus passionnantes. Le 21 mai, un autre moment artistique avec la compagnie de La Vouivre et les élèves de l'EIMD, une balade ponctuée de propositions artistiques, une parenthèse spectaculaire pour interroger notre lien à la nature et habiter nos paysages de façon poétique. Ça donc, c'est Solastalgie, le titre, le 21 mai à 14h30, place des Halles. Ensuite, le 24 mai, on retrouve le musée d'Echelette à Roanne à partir de 19h30. Là aussi, une performance artistique où on va y retrouver un grand nombre d'artistes amateurs sont convoqués du conservatoire, les chœurs de Quentin Guillard et de Laurence Farja, l'itinéraire singulier conduit par Armel Lepin qui associe des personnes en situation de handicap et qui se mélange à d'autres élèves du conservatoire, des élèves aussi du cours de danse de Charlotte Mattei et du dispositif corps et voix du collège de Mably. Seront présents également les percussions de Tréfort ainsi que Laura Tereda. Ensuite, encore un rendez-vous à vous indiquer, le 4 juin, Falling Water, un concert lecture à partir de 11h à la mairie de
Perreux, un duo flûte et de clavecin, des classes de Frédéric Vassel et Octavien Saunier, professeurs au conservatoire donc de Roanne, qui proposeront sur une musique de Jean-Sébastien Bach, de Carl-Philippe Emmanuel Bach et des textes de Choderlos de Laclos. Donc voilà, un moment aussi intéressant, concert-lecture à vivre dans cet espace aussi très sympa de la mairie de Perreux. Voilà, alors donc pour tous ces renseignements, vous pouvez vous adresser par téléphone au Conservatoire Roanne Agglomération 04 77 44 29 50 ou pour plus d'informations sur agglo-roanne.fr. Voilà, la poésie de la matière, effectivement, c'est une aventure humaine, artistique, donc dans le Roannais, et qu'il ne faut pas manquer, en tout cas que nous vous invitons à vivre absolument. C'est la fin de cette émission. Résonance donc sera rediffusée mardi prochain de 13h à 14h, puis dimanche de 20h à 21h. Vous savez que vous pouvez réécouter, podcaster cette émission comme les précédentes, soit sur le site de Résonance Contemporaine, www.resonancecontemporaine.org, ou sur le site de Radio B, votre radio préférée, www.radio-b.fr. Restez à l'écoute de cette radio, Radio B, et à très vite.